Et au menu de notre club, tout en sobriété, cet après-midi, un scientifique oublié, un espace des mondes polaires et l'amour avec des robots. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une planète naine qui pourrait apporter de nouveaux éléments sur les origines de la vie.
Oui, et c'est encore sur Cérès que les regards se tournent. Ce très gros astéroïde orbitant entre Mars et Jupiter abriterait des molécules organiques inertes, une brique essentielle à l'apparition de la vie, que nous scrutons avec l'astrochimiste Louis Dendecourt.
Céline Hilaire réalise ce club qui a été préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagny avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue les invités du club, Laure Michel, Guy Jacques et Stéphane Niveau. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue, vous êtes avec nous en studio. Puis par téléphone, l'artiste et roboticienne France Cadet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Guy Jacques, vous consacrez une biographie à un scientifique oublié, François Arago. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage qui paraît aux éditions Nouveau Monde. Arago, scientifique et politique, il a même été chef de l'État, alors très éphémère. Hein.
Oui, très éphémère et sa fin ne fut pas des plus heureuses. J'en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure. Mais c'est un grand savant, un très grand vulgarisateur et passeur d'idées et un homme politique quand même de premier plan. Et les Français l'ignorent.
Laure Michel, vous êtes la réalisatrice de Cyberlove. C'est la nouvelle web-série d'Arte qui a démarré mardi. Alors c'est quoi? C'est une exploration des relations amoureuses à travers les technologies?
Oui, c'est ça. J'ai essayé de comprendre comment on pouvait analyser l'amour à travers le virtuel, qui est quand même quelque chose de très important dans l'amour. Et la machine est vraiment le bon moyen pour essayer de comprendre ça. Et donc ça m'a amené vers les robots et aussi vers les avatars.
France Cadet, est-ce que les robots sont prêts à nous séduire déjà?
Oh oui, les robots nous ont déjà séduits depuis longtemps, je pense.
On verra évidemment un des épisodes qui vous concerne à l'occasion de cette série. Donc. Et puis Stéphane Niveau, vous êtes à l'origine de l'espace des mondes polaires et Paul-Émile Victor, hein, c'est le nom de cet espace, qui va ouvrir donc ses portes demain à Prémanon dans le Jura. Alors c'est un lieu culturel autour des régions arctiques et antarctiques.
Hein. Oui, l'occasion de rappeler en effet que eh bien, nous avons un explorateur jurassien, en tout cas qui est devenu explorateur polaire, et rappeler aussi que la France est devenue, au cours de ces 50 dernières années, une très grande nation en termes de recherche polaire.
Alors, on fera la visite avec vous dans quelques minutes pour évoquer bien sûr la figure de cet explorateur Paul-Émile Victor. Voilà donc pour le sommaire de ce club. Et vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr. Et à l'aune de la science, un nouveau pas vers la compréhension de la vie grâce à Cérès, cet astre de notre système solaire qui passionne les exobiologistes en quête des premières traces de vie. Après la découverte de geysers de vapeur à sa surface en 2014, la sonde Dawn de la NASA nous envoie depuis 2015 des photos et des mesures de la planète naine, apparemment très active. Et cette fois, ce sont des molécules organiques que pensent avoir détectées les scientifiques. Louis Dendecourt, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes astrochimiste, directeur de recherche au CNRS, vous êtes par téléphone depuis votre laboratoire à Marseille. Et puis dans ce studio avec nous, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Louis Dendecourt, vous avez été surpris par cette découverte publiée aujourd'hui dans Science?
J'ai été très intéressé, mais je n'ai pas été surpris. Il faut bien comprendre que les molécules organiques, on en trouve quand même beaucoup dans beaucoup d'objets extraterrestres, interstellaires, on en trouve dans les comètes, on en trouve dans les sur les astéroïdes, en particulier les astéroïdes riches en carbone. Donc ça n'est pas a priori une véritable surprise, sauf je dirais peut-être pour un scientifique par la qualité des données qui est vraiment très bonne. Mais je ne trouve pas ça extrêmement surprenant.
Quand on dit que ces molécules organiques, ces composés aliphatiques, tels qu'ils sont nommés dans la publication, sont des briques de base pour l'apparition de la vie, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, il faut un tout petit peu se méfier, parce que finalement, le gros problème, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se dire qu'à partir du moment où on a des molécules organiques, on a nécessairement de la vie. La vie est un phénomène basé sur la chimie organique, c'est tout à fait vrai, mais à l'heure actuelle, comme on ne sait pas exactement quels sont les fondements de l'origine de la vie, eh bien, on a beaucoup de mal à se dire, tiens, quand on voit des molécules organiques, par exemple, sur Cérès, est-ce que ça pourrait signifier que l'origine de la vie pourrait remonter à une petite planète comme celle de Cérès, par exemple? Alors, lorsqu'on parle ensuite des briques moléculaires mystère de la vie. On parle bien entendu d'une vie qui est tout à fait similaire à la nôtre, dans laquelle on a par exemple les acides aminés qui composent les protéines, on a aussi les sucres qui vont aider à composer ce qu'on appelle l'ARN et l'ADN, qui sont absolument essentiels bien entendu dans les mécanismes de reproduction génétique de la vie, mais bien entendu ces molécules elles peuvent exister par elles-mêmes et être totalement, je dirais, inertes et pas nécessairement sous forme vivante ou prévivante. On peut très bien synthétiser ces molécules par la chimie organique sans avoir aucun phénomène vital qui soit responsable de l'organisation de la matière.
Philippe Hénarejos, en 2014, on a découvert des geysers sur Cérès. Ça veut dire qu'il y a de l'eau aussi?
A priori, ça veut dire qu'il y a au moins de l'eau peut-être sous forme de glace, on n'en sait rien. Ça ne veut pas dire qu'il y a un océan sous Cérès, peut-être c'est le cas, mais pour l'instant, à ce stade, on ne le sait pas. Mais effectivement, il y a de l'eau qui s'échappe de la planète à la faveur de phénomènes qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être le chauffage du soleil ou autre chose.
Louis Dendecourt, est-ce qu'on peut imaginer des conditions qui aboutissent à l'évolution de ces briques vers la vie sur Cérès, ou il faut tout de suite couper l'herbe sous le pied à cette hypothèse?
Alors il faut faire extrêmement attention, bien entendu, parce que je pense que la très très grande majorité, sinon la quasi-totalité des scientifiques, vous expliqueront tout de même qu'il faut de l'eau liquide, sous forme liquide, et bien entendu des molécules organiques, et ensuite une forme d'énergie libre, c'est-à-dire de l'énergie, pour pouvoir effectivement activer une chimie qui soit utile, je dirais, à quelque chose. Donc, le fait est, c'est que sur Cérès, il n'y a pas réellement d'atmosphère, du moins pas d'atmosphère au sens où on l'entend, lourde et qui permettrait la présence d'eau liquide. Donc il y a peut-être de l'eau en sous-sol, mais on n'en sait encore trop rien. Hein. Il faut bien voir que, par exemple, lorsqu'une comète comme Rosetta s'approche du Soleil, on voit bien s'échapper des geysers d'eau, entre guillemets, mais c'est de l'eau, bien entendu, qui se vaporise directement de la glace à la vapeur sans passer par l'état liquide. Donc on ne connaît pas suffisamment encore les conditions de l'eau sur Cérès pour pouvoir dire, bon, on a par exemple de l'eau liquide plus des molécules organiques, ce qui serait évidemment déjà un énorme progrès.
Ouais. Philippe, on prend tellement de précautions, mais ça a un intérêt de parler de Cérès aujourd'hui réellement, alors?
Oui, ça a un intérêt parce que ce corps-là, il est quand même atypique dans la ceinture d'astéroïdes. Je rappelle que c'est entre Mars, c'est les orbites qui se trouvent entre celles de Mars et de Jupiter. Oui. Il y a tout un tas d'astéroïdes, donc. Et parmi ces astéroïdes, Cérès est le plus gros. Il fait à peu près 950 km de diamètre. Et quand même, dans les modèles dynamiques du système solaire qui essaient de nous raconter comment les planètes se sont formées, etc., il y a plusieurs milliards d'années, il y a eu une espèce de jeu de quilles planétaires avec Jupiter et Saturne qui ont un peu bougé sur leur orbite et qui sont venus injecter des corps célestes glacés primordiaux qui sont fabriqués au-delà de Neptune, c'est-à-dire très loin du Soleil, donc qui comportent des roches, mais aussi de la glace. Et Cérès serait l'un de ces survivants, de ces petits corps, à partir desquels peut-être les planètes se seraient formées. Donc, étudier Cérès, y chercher des molécules organiques, savoir quelle est leur origine, si elles ont été importées par des chutes d'astéroïdes, ou si elles se sont formées sur Cérès il y a très très longtemps, à l'époque où peut-être Cérès était au-delà de Neptune, c'est quand même une piste intéressante à suivre pour savoir ce qui s'est passé avant que les planètes comme la Terre se créent, et comment éventuellement la vie a pu apparaître, où se trouvaient ces briques. On ne connaît pas la recette encore, hein. On a tous les ingrédients sur la table, mais on n'a pas le gâteau. Hein. Avant de passer de l'un à l'autre, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais une des manières de les éclaircir, c'est d'aller voir ce qui se passe sur Cérès.
Louis Dendecourt, ça veut dire que l'histoire de la vie dans le système solaire qu'on connaît que sur la Terre serait forcément très liée à l'histoire du système solaire en lui-même?
Moi, je pense pas nécessairement, bien que, alors là, tout le monde ne partagera pas cette conviction, mais effectivement, finalement, il faut se ramener un peu aux ingrédients, il faut une chimie organique, il faut de l'eau liquide, il faut de l'énergie libre, probablement sous forme d'énergie lumineuse, une énergie qu'on appelle à basse entropie, ça veut peu de désordre, de manière à pouvoir commencer à organiser la matière organique et à pouvoir avoir une certaine réactivité chimique dans des directions qui permettent, par exemple, des reproductions ou des réplications moléculaires très rapides. Parce qu'il faut que le phénomène soit rapide, parce que sinon, bien entendu, cette chimie n'est pas stable. Donc il faut vraiment arriver à sortir de ce domaine dans lequel on est finalement dans un contexte dans lequel vous avez des centaines, voire des milliers de molécules organiques, alors qu'en fait, les différents nombres de briques originelles sont relativement faibles, si vous voulez. Donc il faut pouvoir organiser la matière. Et donc, imaginez que ça ne se produise que dans le système solaire, moi je trouve que c'est très exagéré, parce que vous avez des milliards d'exoplanètes, ça on le sait, donc il va y avoir potentiellement des centaines de millions d'endroits dans lesquels le même type de chimie va effectivement régner, et ça on l'observe avec des télescopes spatiaux ou au sol, et on observe des chimies très riches. Donc imaginez que ça n'arrive que dans notre système solaire, ça me paraît un petit peu réducteur. Non. Et je voudrais quand même être assez prudent, parce que le gros problème de la vie, c'est effectivement qu'il faut, de la vie, de la chimie prébiotique juste avant la vie, c'est qu'il faut en fait avoir des conditions qui soient stables, des conditions, je dirais, par exemple géologiques ou d'environnement, qui soient stables pendant une longue période. Si on prend ce qui s'est passé sur Mars, on s'aperçoit que Mars a eu beaucoup d'eau au début. Au bout de 500 millions d'années, pour des raisons que l'on comprend maintenant, l'eau est partie. Et puis, manifestement, la vie n'a pas survécu. Il n'y a pas de vie si elle a démarré sur Mars. Sur Vénus, c'est encore pire. Il fait 500 degrés. Vous ne pouvez pas imaginer une vie basée sur des protéines, par exemple. Et donc, on voit bien que sur trois corps qui sont produits au même endroit, au même moment et avec les mêmes ingrédients, il n'y en a qu'une qui abrite de la vie. C'est bien la Terre. Quand tu as parlé de vie sur Cérès, alors on n'en a strictement aucune idée.
En tout cas, on entend bien votre prudence, Louis Dandécourt, et c'était, en tout cas, on vous remercie pour ces commentaires sur cet objet Cérès qui vraiment intéresse beaucoup quand même les exobiologistes, pour en connaître plus donc sur la formation de la vie, et donc cette publication parue aujourd'hui dans Science. On retrouve des infos sur Ciel et Espace, Philippe?
Non, mais dans le prochain Ciel et Espace à paraître, vous retrouverez Louis Dandécourt d'ailleurs, puisqu'on consacre un dossier à la vie, à l'univers, et avec toutes ces questions qui sont abordées en profondeur.
Donc dans quelques jours à peine dans les kiosques. Merci beaucoup, Axel, merci.
Et bon week-end.
Et bon week-end, Alain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'histoire de la reproduction réécrite après la découverte d'un fossile, ce fossile retrouvé en mer de Chine, est celui d'un Dinocéphalosaurus, une espèce vivant il y a près de 250 millions d'années, et surtout celui d'une femelle abritant un embryon dans son abdomen. Or, jusqu'à aujourd'hui, on pensait que cette espèce pondait des œufs. Cette publication de Nature Communications repousse donc de 50 millions d'années l'émergence de la viviparité au sein de cette branche de l'évolution dont les représentants actuels sont les crocodiles et les oiseaux. Les prairies marines protègent les écosystèmes littoraux dans une étude publiée aujourd'hui par Science. Une équipe de scientifiques montre les bienfaits de ces herbiers aquatiques contre la pollution en mesurant les concentrations d'une bactérie pathogène d'origine humaine dans des rivages indonésiens. Ils ont réalisé que celle-ci était divisée par deux dans les eaux abritant ces prairies. De même, les récifs coralliens entourés de ces plantes sous-marines voient leur dégradation également divisée par deux. Les chercheurs ne savent pas encore expliquer ce phénomène, mais cela démontre les bienfaits de ces herbiers sur leurs écosystème. Et puis la Zélandie, retenez bien ce nom, ce sera peut-être le 8e continent terrestre. La Société américaine de géologie appelle à considérer sérieusement comme un continent un morceau de la croûte terrestre de 5 millions de kilomètres carrés s'étendant de la Nouvelle-Zélande à la Nouvelle-Calédonie. Cette masse continentale n'est ni d'origine volcanique ni un assemblage d'autres morceaux de continents. C'est pourquoi ces géologues estiment qu'elle est un continent, sauf qu'il n'existe aucun organisme international chargé justement de cette question. La nouvelle désignation ne sera donc adopté que si un large consensus émerge de la communauté scientifique. Et c'est le club dans un instant.
Quand y est le biche que risque rassé c'est un asque barri. Et n'est pas mon nez. Alors, il me tue. Grundin que je honge. Wizard Ethiopia. Mentit à Bekalesh. Fit zum Ethiopia wit. Ein Amadi Mama. Wizard Ethiopia. Conjit in a name by Tramage would it beat chiba de babai en neka we molen an chin beku fui miai.
Birma Beyene et Akale Woube à l'instant sur France Inter.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans le club des têtes au carré cet après-midi, un scientifique oublié, un espace des mondes polaires et l'amour avec des robots. Ce sera très chaud, vous allez voir. Et on commence avec vous, Guy Jacques. Vous êtes océanographe et biologiste, directeur de recherche au CNRS. Et donc, vous publiez François Arago, l'oublié, aux éditions Nouveau Monde. Et c'est le moins qu'on puisse dire, quand même. Hein. Un personnage dont on aurait bien du mal à dire qui il était, même si on passe régulièrement pour les Parisiens, en tout cas dans son grand boulevard. Hein.
Oui, on a du mal à le dire et les quelques ouvrages qui ont été publiés dessus, il y en a quand même, notamment ceux rédigés par des polytechniciens, qui dénigrent pas mal le travail scientifique de François Arago, ouais. Alors que pour moi, il est remarquable. Donc c'est quand même, si vous voulez, et il a une carrière politique également qui est parallèle. Hein. Ouais. Il a quand même mené les deux et sa carrière politique, si on peut dire commencer par là, on peut dire à quelques mots scientifiques après, c'est tout pendant la monarchie de Juillet. Entre 1830 et 1848, il est 8 fois élu député des Pyrénées-Orientales, mais surtout, il a un rôle important à une époque cruciale qui est au moment de l'abdication de Louis-Philippe. Juste après l'abdication, il devient le personnage principal d'un gouvernement provisoire et il est chef de gouvernement pendant pratiquement un mois.
Voilà.
Et c'est là qu'il va atteindre le Capitole et puis la roche tarpéienne ne sera pas loin.
Ouais, mais tout le monde l'a oublié, ça, au fond.
Ben, tout le monde l'a oublié.
Bon, c'était très éphémère, certes, mais quand même.
Hein. Oui, alors, il y en a même, il y a des mouvements ouvriers catalans, si vous voulez, qui l'ont oublié un peu volontairement pour faire d'Arago leur figure de proue quand en ont eu besoin dans les années 1900-1950. Mais effectivement, il a un rôle ambigu, c'est que entre le 22 juin, il va rue Soufflot où il y a des barricades et des émeutes et il aurait donné l'ordre de tirer sur la foule.
C'est,
mais il démissionne la nuit même.
Voilà, mais c'est la zone d'ombre un peu de
son
parcours politique.
C'est la zone d'ombre parce qu'on n'a pas de preuve absolue. Ouais. Donc il y a des historiens qui disent il a donné cet ordre. Moi, j'aurais tendance quand même à penser qu'il a dû le donner parce qu'il était républicain, mais il avait une horreur des révolutions et des mouvements de foule. Mmh. Donc je pense que ce n'est pas impossible.
Ouais. Alors, il y a un bon résumé finalement du parcours d'Arago à la page 179 de votre livre. Alors vous citez François Sarda, justement, qui écrit à son sujet. Quelle famille ? François Arago mesure le méridien en 1806, il devient secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, il dirige l'Observatoire de Paris, il est donc député sous la monarchie de Juillet, il lutte pour le suffrage universel, la révolution de 48 donc le porte au pouvoir, il signe l'abolition de l'esclavage, devient chef d'État pendant 6 semaines et Napoléon Ier abdiquant lui propose de créer en Amérique une cité des sciences. Bon, voilà. Alors, il y a quand même un parcours incroyable. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, il n'a rien inventé de marquant.
Oui, c'est-à-dire qu'il a été quelquefois un petit peu dispersé. Et il était surtout expérimentateur, plus que ce qu'on appellerait maintenant modélisateur, si vous voulez. Donc, il s'est toujours appuyé. On a du mal quelquefois à distinguer ce qu'a fait Arago, ce qu'a fait Ampère, ce qu'a fait Fresnel.
Ouais.
Mais les trois, ces trois grands physiciens, qui ont quand même marqué la physique de cette époque-là. Et les Américains reconnaissent beaucoup plus le mérite d'Arago, scientifiquement et également comme aventurier, pratiquement, pour sa mesure du méridien en Espagne, que le font les Français.
Mmh. Alors c'est au fond son éclectisme qui fait qu'aujourd'hui cet homme est un peu oublié, et même de sa région natale, les Pyrénées-Orientales par exemple, où il y a très peu d'hommages qui le sont rendus, il n'y a pas de musée, et vous dites à quel point vous militez vous-même pour qu'existe quelque chose.
Oui, je vais militer parce qu'il est quand même natif d'un village de 3000 personnes, et qu'il faut rappeler aussi qu'il y avait ses frères quand même. Il y a un frère qui était quand même homme politique, un autre qui était général de l'armée mexicaine, un autre colonel de l'armée mexicaine, et celui qui a le moins bien réussi, il était polytechnicien et officier de l'armée française. Pour un petit village de 3000 habitants, c'est quand même assez rare.
Ouais. Alors, comment vous l'avez connu, vous, au fond ? C'est en tant qu'océanographe que son nom vous a marqué au point de vouloir en faire une biographie ?
Oui, alors c'est par l'océanographie, mais c'est pas moi qui l'ai découvert. Une fois, un de mes collègues a fait un cours sur le Gulf Stream, et il a rappelé qu'Arago avait mis en lumière et expliqué de manière remarquable des phénomènes océaniques, ce que je ne savais pas. Et comme j'ai passé 30 ans au laboratoire Arago, je me suis dit, arrêtons là, on va se pencher sur son cas, et je serai moins ignare que les élèves du lycée Arago, par exemple.
Ah oui, parce que vous avez fait une demande, justement, auprès de vos collègues et amis de ce lycée, pour voir qui, auprès des étudiants, connaissait vraiment Arago. Donc il y a eu un petit sondage qui a été fait et le résultat n'est pas très concluant.
Mais alors c'était des élèves qui entraient en seconde et maintenant ça ne se fera plus puisque je donne maintenant un cours à la rentrée pour expliquer
qui est Arago. Donc tout le monde entend parler d'Arago. Voilà. Ça.
Mais ils ont simplement, alors je prends deux réponses amusantes mais pourraient l'être dans d'autres domaines. Il y en a un qui dit que c'est un grand architecte du XXe siècle.
Bon bah pourquoi pas, ouais. Laure Michel.
Moi j'ai été étudiante en géographie à l'Institut de géographie à côté du musée d'océanographie, donc ce que vous me racontez me fascine. Je vous remercie de
connaissez Arago, alors vous, Laure Michel?
Eh bien oui, mais bien sûr, évidemment, je pourrais en parler pendant des heures.
Elle connaît beaucoup mieux les robots sexuels que François Arago. Oui.
Puis elle va le connaître bien en lisant mon livre.
Alors, son aventure, justement, scientifique, parlons quand même de ses contributions, parce qu'elles sont nombreuses, vous parliez de son éclectisme tout à l'heure. Cette aventure, elle commence au Baléares, au fond, c'est ce que vous
racontez. Elle commence au Baléares, c'est la poursuite de la mesure du méridien terrestre pour estimer la longueur du mètre, c'était ça. Et le problème, c'est qu'il commence ses mesures en Espagne au moment où Napoléon veut installer son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Mm-hmm. Les Espagnols se révoltent et on prend Arago, avec les signaux lumineux qu'il faisait, pour un espion.
Oui. Alors, le méridien de Paris, c'est très important quand même.
C'est très important.
C'est ce qu'on garde d'Arago.
Oui, alors il y en a quand même toute une succession de grands scientifiques, de grands astronomes qui ont contribué à la mesure du méridien. Ce qui est dommage, Arago ne l'a pas su, mais en 1884, à Washington, c'est quand même le méridien Greenwich qui a été repris parce que les Anglais avaient promis qu'ils utiliseraient le système métrique. Ouais. Ils nous ont trompés.
Mmh. On va écouter Gaston Bachelard, c'est en 1948 sur la RTF. Il évoque justement Arago aux côtés de Raspail.
D'Arago rapproché Raspail, voilà qui doit soulever quelques scrupules dans l'esprit d'un historien des sciences. Certaines découvertes d'Arago, comme la découverte de l'amortissement d'une aiguille aimantée par un disque de cuivre, est une découverte précise, ineffaçable, alors qu'on serait bien en peine de désigner, dans l'œuvre immense de Raspail, une découverte qui puisse défier le temps.
Ah, il y a une petite prise de position de Bachelard.
C'est que l'électromagnétisme et les travaux qu'a fait Arago lui ont valu quand même la médaille Copley, qui était un peu le prix Nobel de physique de l'époque.
Ouais. Donc il a été pionnier, Arago, dans ce domaine de l'électromagnétisme.
Alors, dans deux domaines, la lumière, la vitesse de la lumière, où pour les Américains, il a découvert, alors, entre guillemets, par inadvertance, la relativité.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a montré la constance de la vitesse de la lumière dans le vide.
Ouais, il montre, c'est ça, que la lumière se propage à la même vitesse, quel que soit le corps d'où justement elle émane.
Ouais.
Mais lui, il ne savait pas au fond, c'était
hasard. Il n'a pas osé non plus aller trop contre Newton. C'était mettre en lumière
il faut être solide,
théorie
déjà,
ondulatoire, alors que Newton était quand même le pape avec sa théorie corpusculaire de la lumière.
Ouais.
Il a peut-être été trop prudent.
Et alors, il fait des expériences avec l'électromagnétisme.
Ah oui, il a fait des choses. De toute façon, c'est un grand expérimentateur. Dès qu'il voit une expérience faite par un étranger et qu'il en a connaissance, aussitôt, il essaie de la rééditer, d'améliorer les appareils. Il a aussi beaucoup contribué à développer l'instrumentation française. C'est un peu le Montebourg du 19e siècle.
Ah oui, d'accord, très bien. C'est le Made in France, c'est ça?
Voilà, absolument. Pour les instruments d'optique et la daguerréotype, surtout. Ouais.
Alors justement, on lui doit beaucoup aussi au niveau de la photographie. Les daguerréotypes, c'est ça.
Oui, alors, et les Américains voient voit en lui à la fois non seulement l'homme qui a promu la photographie par le biais du daguerréotype, mais qui l'a fait de manière républicaine. Il a mis à la disposition du monde et du peuple une découverte qui allait devenir quand même un avenir, qui allait connaître un avenir fantastique.
Ouais. Qu'est-ce que c'est alors le daguerréotype exactement, inspiré directement du nom de Daguerre?
Oui, alors ce qui est curieux, c'est qu'il y avait déjà la photo sur papier à l'époque par l'anglais Talbot, et daguerréotype c'est quand même sur une plaque métallique polie, c'est-à-dire que c'est un procédé très cher, mais la qualité était remarquable pour l'époque, bien supérieure au papier. Et il a donc promu à l'Assemblée et à l'Académie des sciences, puisqu'il était secrétaire, il a promu par une souscription nationale l'invention de Daguerre, en ignorant un peu Niépce.
C'est quand même les débuts de la photographie.
Ce sont les débuts de la photographie.
Donc on doit un peu ça à Arago.
Oui, absolument.
Quand même, hein. Non, mais il a fait beaucoup de choses quand on énumère quand même ses apports. Oui. Alors, c'est lui qui fixe le point zéro de la France en 1897.
Oui, alors c'est peut-être la seule chose qu'il ait fait dans les Pyrénées-Orientales, puisque pour faire la carte de nivellement de la France, il fallait fixer un niveau zéro des mers, et il l'a fixé sur le port de Port-Vendres, donc dans les Pyrénées-Orientales, mais qu'une vingtaine d'années après, c'est passé à Marseille. Hein. Donc, dès qu'il a disparu, point zéro a quitté Port-Vendres. Mais il y a toujours quand même la trace à Port-Vendres.
Ouais. Donc il a été directeur de l'Observatoire de Paris, d'où ce nom de coupole, la grande coupole de l'Observatoire.
Oui, absolument, la coupole Arago.
Mais la statue qui lui était dédiée, en dehors d'ailleurs de l'Observatoire à Paris, a disparu.
Elle a disparu, comme beaucoup d'autres statues, elle a été fondue pendant la Deuxième Guerre à la demande des Allemands, mais elle n'a jamais été remplacée. Alors un espoir est né il y a 2 ans, puisqu'une association de polytechniciens a décidé de demander à des sculpteurs de refaire une statue. Mais deux avatars à cette aventure, c'est que premièrement, ils ne pourront plus la mettre sur le socle, puisque le socle est une propriété morale d'un autre architecte, Jean Dibetz, celui qui a mis les médaillons en 2000 sur le méridien de Paris. Et deuxièmement, ils la mettront donc dans le jardin de l'Observatoire, et la statue retenue a l'air de créer polémique, et il y a même une pétition contre dans les Pyrénées-Orientales qui est en train de naître.
Eh bien vous voyez, il suscite toujours la polémique finalement.
Oui, alors il n'aura jamais une statue sur son socle.
C'est ça. Bon, c'est son destin qui se
poursuit. Je crois que c'est son destin.
Post-mortem. Voilà, François Arago, l'oublié, donc c'est un éclairage sur ce personnage important de la science, il faut le rappeler, qui était un grand vulgarisateur.
Absolument,
également.
C'est peut-être là qui... c'est peut-être le premier grand vulgarisateur au monde.
C'est ça. Ouais, et son rapport avec les journalistes, il était très malin.
Il a
aussi
permis quand même aux journalistes de rentrer dans l'Académie des sciences.
Absolument.
Parce qu'il était quand même, il a été critiqué pour ça.
Guy Jacques, vous restez avec nous. Merci. Ce livre paraît aux éditions Nouveau Monde. François Arago, l'oublié. Dans un instant, nous parlons donc des robots et le sexe.
Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague. Les nuages, seul dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau, je mets les voiles, mais seul je prends l'eau, tes matelots. Oh,
L'amour en solitaire, Juliette Armanet.
La tête au carré. Le club.
Et voilà un très bon titre, Laure Michel, L'amour en solitaire, hein, pour introduire notre sujet avec cette web-série sur Arte. Parce qu'au fond, il est question de ça aussi. Hein.
Et oui, quelle programmation musicale judicieuse.
N'est-ce pas Thierry Dupin hein, qui nous a programmé ce disque pour parler de ce qu'on verra sur Arte, probablement aussi avec finalement les pratiques qui vont changer aussi. Parce que notre vie amoureuse, notre vie sexuelle, à l'heure du virtuel, est en train véritablement d'être bouleversée. Hein.
Et c'est vrai que la question solitaire ou pas solitaire, c'est une vraie question, récemment. L'amour virtuel, parce qu'on peut à la fois se dire que c'est évidemment une expérience extrêmement solitaire d'aimer à travers des machines, voire des machines.
Oui.
Et en même temps, en tous les cas, si c'est à travers les machines, c'est pas tellement solitaire non plus, parce que ça nous relie
à quelque chose,
à des gens, d'une manière extrêmement forte. Donc,
à des machines, vous dites des gens, vous ?
Non, mais derrière les machines, il y a des gens, parce que dans ma réflexion, il y a aussi des machines qui nous connectent avec des personnes.
C'est vrai.
Et donc, c'est aussi un moyen d'être relié et d'aimer aussi, et voire même de construire des scénarios sur les autres autour
c'est
de
vrai.
Nous.
Ah oui, il y a d'ailleurs un épisode, je crois que c'est l'épisode 8, où on voit la question des avatars.
Vous êtes un expert.
Dans la série. Et on voit justement deux avatars qui se rencontrent, donc deux personnes réelle derrière ces avatars, l'une en France, je crois, et l'autre au Canada. Et leur première rencontre se passe via justement l'écran et l'avatar.
Ouais, c'est aussi ce que j'ai découvert, c'est-à-dire qu'en explorant l'amour virtuel, j'ai été regarder ce qui se passait pour l'homme, l'homme aujourd'hui, maintenant, avec son téléphone, son ordinateur, et comment il peut aimer à travers tout ça, tout ce qu'il peut vivre comme expérience. Je suis un peu remontée dans le passé. Ensuite, j'ai eu toute une réflexion sur les robots, apparemment un sujet qui vous tient à cœur, Mathieu.
Ah, mais ça m'a beaucoup intéressé.
Et puis j'ai aussi découvert des personnes assez passionnantes qui donc vont dans des mondes virtuels comme Second Life ou autres, hein, parce qu'il y en
c'est
a
ça.
D'autres, sous la forme d'avatars, pour y vivre des expériences qui pour moi étaient vraiment je les ai vécues un peu je me suis pas créée d'avatar encore, mais en tout cas je les ai vécues avec beaucoup d'étonnement, comme si on m'emmenait dans un ailleurs quoi, et vivre des expériences émouvantes.
Et les témoignages sont très étonnants d'ailleurs, j'avoue qu'autour des avatars c'était assez fascinant.
Je suis toute rouge.
On va accueillir France Cadet dans un instant, qui est en ligne avec nous. Mais d'abord, on va écouter la bande-annonce, justement, de cette web-série Cyber Love, la nouvelle série d'Arte Créative, donc, qui est arrivée sur le web d'Arte, mardi.
Avant, il y avait les lettres d'amour. C'était long d'écrire. C'était long d'attendre. C'était une bombe à fantasmes. Tu as connu ça, toi ? Le charme des premiers échanges téléphoniques ? Parfois, t'étais bloqué chez toi à attendre un appel.
Salut, c'est Nathalie. Tu m'appelles en rentrant ? Ce serait tip-top. Tu me manques.
Et puis il y a eu cette révolution, Internet, et puis les webcams, les smartphones, et la suite alors.
Yeah.
Allez, viens avec moi explorer l'amour cyborg, les love machines, l'érotisme virtuel et le pays des avatars. Tu vas voir, elles sont belles toutes ces cyber love stories. Tu vas pouvoir choisir ton modèle 2.0, et qui sait, peut-être que ça va matcher. A tout de suite, je t'attends.
Ah oui, c'est chaud au pays du virtuel.
Vous avez vu, j'ai pris cette voix un peu,
oui, c'est votre
un
voix.
Peu sensuelle, et on m'a mis un peu en effet robotique.
C'est ça, et ça marche très bien, ça c'est extrait du tout premier épisode. France Cadet, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes artiste et professeur en robotique justement à l'atelier de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, et puis vous travaillez également à la School of the Art Institute de Chicago. Vous êtes donc une artiste de l'hybridation. Alors vous apparaissez justement dans l'épisode 8 sur le web d'Arte pour parler des créatures hybrides.
Oui, je me suis toujours intéressée en fait au fonctionnement des choses, en fait, au fonctionnement du vivant comme des machines. Et pour moi, il y a un vrai parallèle entre fabriquer des robots et comprendre le vivant.
Alors, quand on va sur votre site internet justement, cyber-doll.com, on peut découvrir votre travail avec des photos autour d'une série qui s'appelle Robot Mon Amour. Alors, ça consiste en quoi votre projet exactement ?
Oui, alors en fait, il s'agit d'une série de photographies, un petit peu dans la longue tradition de l'autoportrait, mais où je me suis mis en scène directement dans la peau d'un cyborg des temps modernes, on va dire.
Uh-huh.
C'est-à-dire dans les clichés de la représentation du robot ou du cyborg dans la science-fiction, le cinéma, la littérature. Donc concrètement, en fait, il y a une photo de mon visage qui est très réaliste, mais sans émotion apparente, qui est fusionnée avec un corps complètement artificiel et qui fait référence donc à différents robots que l'on peut avoir vus dans l'imagerie du robot, soit des robots blancs, lustrés, un petit peu japonisants, très, très kawaii, très mignons.
Oui.
Après, il y a des robots rouges un peu qui font référence à Iron Man, ou alors des robots plus inquiétants. Ou alors des robots aussi très sexy, un petit peu dans l'univers de Sorayama des années 80.
Il y a des pin-up, hein, robots, hein, vraiment, oui. Ils sont très très chouettes. Ouais.
Oui, sexy quand même, France vraiment sexy, ouais. Même parfois, tu es quand même hyper hyper sexy dans certaines représentations. D'ailleurs, j'ai longtemps pensé, fantasmé l'idée que tu étais peut-être en vrai un robot, mais j'ai rencontré France dans le sud de la France et en fait elle est humaine, elle est même incroyablement humaine.
Et elle a un très beau visage, comme on peut
elle
le voir justement.
Elle est charmante, elle est belle et elle a un très beau visage. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce travail au fond, France Cadet, parce que vous le soumettez évidemment au public, donc c'est de voir aussi l'intérêt, les réactions suscitées par ces hybridations.
Oui, oui. Alors, en fait, il y a plusieurs lectures, puisqu'effectivement, il y a certaines photos qui sont plus sexy, qui sont séduisantes, et d'autres qui sont un petit peu dérangeantes, en fait. Donc, par cette juxtaposition de mon visage très réaliste et du corps artificiel, je voulais évoquer aussi ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, donc, où, en fait, on a ces machines qui deviennent de plus en plus réalistes, et il faut qu'elles soient réalistes pour qu'on puisse éprouver de l'empathie. Mais lorsqu'elles deviennent très, très réalistes, en fait, monstrueusement réalistes, ça en devient déstabilisant. Et du coup, la machine est perçue comme un homme avec des défauts plutôt qu'une machine parfaite.
Ah oui, donc il y a vraiment, on confond. Aujourd'hui, on arrive vraiment à mettre de l'humain dans la technologie.
Oui, voilà. Et puis, c'était aussi sur cette idée un peu qui commence à être un petit peu datée des transhumanistes, où on a du vivant dans l'artificiel et de l'artificiel dans le vivant. Voilà, donc je voulais interroger un petit peu cet aspect-là. Et puis, il y a deux des cyborgs qui sont aussi interactifs. Donc, qui invite le spectateur à la communication avec la machine par la caresse. C'est-à-dire qu'il faut caresser le corps des cyborgs pour déclencher une sorte de frisson lumineux électronique qui va parcourir le corps du cyborg, par exemple.
Mais alors ça, on peut le faire où, alors, cette expérience, exactement?
Alors, c'est lors des expositions, en fait, les photographies sont interactives. Donc, on peut caresser les cyborgs et rentrer en contact avec eux par la caresse.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, de la part du public, quand on vient caresser vos créatures?
Alors, souvent, étrangement, les femmes vont plus volontiers caresser un corps de femme, puisque souvent, en fait, je me suis mis dans la peau d'un cyborg au féminin, d'un hybride, et les hommes sont plus réservés.
Ah oui, c'est vrai.
Oui,
et comment il explique, alors?
Oh, je pense qu'il y a peut-être une image à respecter d'homme viril.
Oui, et vous pensez que la machine les déstabilise un petit peu, alors, dans...
Pas tant que ça, la machine, je pense, c'est le fait d'être en public.
Ah oui.
En public, dans un cadre d'exposition. Ouais.
Alors justement, alors Michel, ces robots dans notre intimité aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà une place au fond? Parce qu'on les voit toujours un peu loin de nous, dans des pays comme le Japon, on les utilise énormément. Les Love Dolls, par exemple, hein, c'est une réalité déjà. Mais est-ce que dans nos contrées, on peut imaginer que vraiment ces objets franchissent le seuil de nos portes?
Mais vous savez, c'est pour ça, enfin, effectivement, ici, on a une espèce de vision un peu cinématographique du robot, cet objet effrayant. Et moi, je pense que c'est intéressant d'amener une réflexion là-dessus dans le débat citoyen aujourd'hui, parce que vous le savez dans cette émission, mais le demain arrive bientôt, et c'est vrai qu'il y a des futurologues qui, moi, j'ai été étonnée du nombre de livres qui existent, qui annoncent qu'en 2050, on va sans doute épouser des robots.
Ouais.
Le professeur David Levy, par exemple, a écrit ça, j'ai lu des études de chercheuses américaines, et puis dans la web-série donc Cyberlove, où il y a une chercheuse australienne, une sexologue australienne qui travaille avec un chercheur néo-zélandais, donc le docteur Mars.
Ouais.
Le nom, oui, le nom est génial, on parlait.
Mais c'est très crédible.
Et qui pense, elle, en fait, qui pense en termes de maison close, parce qu'elle pense qu'il y a vraiment un problème sanitaire auquel il faudrait essayer de trouver une solution intéressante. Voilà. Et elle pense que donc le robot sexuel est une alternative intéressante. Donc il faut monter un projet de maison close. Alors elle voudrait faire ça à Amsterdam en 2050. Mais en fait.
Justement pour émanciper la femme aussi. Hein.
Alors voilà, ce qu'elle dit, et ça c'est assez drôle, c'est que l'avantage, c'est qu'on peut programmer ces robots. Parce que même si dans ce monde moderne, notamment grâce aux technologies, on a accès à beaucoup d'informations qui permettent aux hommes d'être de plus en plus délicats et disons à l'écoute du plaisir féminin, elle pense que des robots pourraient être très utiles pour être vraiment vraiment bien programmé pour permettre aux femmes d'être totalement satisfaites. Ouais. Leur demande étant bien sûr immense et incommensurable.
Et ce serait la fin de la prostitution aussi, du coup.
Voilà, c'est ce qu'elle envisage. Mais vous savez, au Japon, ce que Agnès Géard, en fait, qui est dans ma web série que j'ai interviewée, a écrit un livre sur ces fameuses love dolls dont vous parlez. Donc, ces poupées qui ressemblent, quand on a envie, en tous les cas, on trouve qu'elles ressemblent beaucoup aux humains. On peut trouver que ça reste une poupée.
Elles sont vraiment dans des mesures humaines.
Elles font la taille d'un humain. Au Japon, elles sont fabriquées de manière assez étonnante. Et il y a tout un marketing pour vous donner vraiment l'impression que vous faites venir quelqu'un chez vous.
On est loin de la poupée gonflable.
Voilà. Et elles ont donc un sexe amovible qui, paraît-il, d'ailleurs, fonctionne pas très bien, d'après Agnès Géard. C'est pas très performant.
Ça va s'améliorer.
Mais, en tout cas, il y a eu une espèce d'engouement au Japon sur ces poupées pour leur fonction, entre guillemets, sexuelle. Et ils ont ouvert... plusieurs usines ont été créées de Love Doll parce qu'ils ont ouvert des maisons closes. Mais elles n'ont pas très bien fonctionné parce qu'il y a eu un aspect déceptif. Les gens... Mais néanmoins... il est probable que les fabricants de robots, alors pas ceux qui font aujourd'hui les gentils robots compagnons, parce que c'est plutôt ça qu'on fabrique maintenant, mais je vois pas comment il pourrait ne pas y avoir des robots sexuels un peu convaincants. Ouais.
France Cadet, sérieusement, dans les laboratoires de robotique aujourd'hui, en France, on travaille sur des modèles de robots sexuels
Alors, on travaille sur des robots compagnons, on va dire. Et puis, effectivement, les robots sexuels, ça va être la prochaine révolution. Quand on arrivera à coupler le sextoy avec le robot compagnon, là, on pourra avoir des êtres parfaits, des êtres qui sont capables de combler tous vos désirs, voire même de les anticiper, puisqu'ils vous connaîtront très bien. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans le Soft Love d'Eric Sadin ou Her de Spike Jonze, où en fait... La créature artificielle va pouvoir même vous surprendre.
Ouais, mais Stéphane Niveau, ça va être formidable pour les explorateurs qui partent pendant 6 mois seuls sur la banquise.
Alors oui, au froid.
Par un robot.
Au froid et loin de tout.
Mais tout sera prévu, évidemment. Est-ce qu'en tout cas, vous avez l'impression, France Cadet, qu'on a fait un pas en avant, justement, vers nos relations avec les robots et que leur statut a complètement changé aujourd'hui?
Il y en a même certaines personnes comme Alain Bensoussan qui veulent leur accorder des droits. Mais à mon sens, le problème que ça va poser, ça va être plus des problèmes en fait de responsabilité. En cas à la fois de problème, est-ce que ça va être qui va être responsable, le robot, le fabricant, le propriétaire? Mais je pense qu'il y a aussi une question de compétition qui va s'installer entre les créatures artificielles et les amants.
Allons bon. Ah oui, il y aura de la jalousie aussi chez les robots? Des scènes de ménage? On va casser de l'assiette.
Vous vous rendez compte, quelle compétition.
Donc il faudra des avocats pour couple robotique.
Non, mais oui. Non, mais cette compétition au sens de... Il y a un philosophe, Dominique Lestel, qui parle de nos artefacts qui deviennent de plus en plus animalisés, en fait. Ouais. Et donc, on les considère, en fait, comme des animaux ou comme des humains. Mmh. Et du coup, il y a un déplacement, en fait, des références. C'est-à-dire qu'en fait, l'amant parfait ou l'animal parfait va être cette reproduction artificielle qu'on va proposer, qui va donc être parfaite et être très performante. Donc, il y a un risque d'avoir une compétition entre l'amant artificiel parfait et le pauvre humain.
Bon, ça fait beaucoup de thèmes de réflexion.
On va alimenter les dîners en ville, là, je sens.
Et de sujets pour la réalisatrice que vous êtes, Laure Michel. Voilà, Cyberlove, nouvelle web-série, donc c'est sur le web d'Arte.
Arte Créative, c'est sur Arte Créative.
Voilà, et on peut déjà la découvrir.
Il y a les 10 épisodes en ligne depuis la Saint-Valentin. On a trouvé un moyen original de parler d'amour.
Effectivement, et ce sera pendant 3 ans.
Oui, ce sera pendant 3 ans, donc vous avez le temps, mais quand même, venez maintenant.
Et France Cadet, c'est cyber-doll.com pour découvrir votre œuvre et vos photos, entre autres, autour de cette série Robot Mon Amour. Allez, dans un instant, nous partons dans le grand froid à l'occasion de l'ouverture demain d'un lieu justement dédié au pôle.
them some of the work gets kinda hard. And this ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you're at the pool, at the car wash.
Kawash avec Rose Royce. Et dernier invité de ce club, Stéphane Niveau, pour parler de l'espace des mondes polaires, Paul-Émile Victor, qui se trouve à Prémanon, dans la station des Rousses, dans le Jura. Vous avez de la neige en ce moment?
On a de la neige, on a même de la neige de bonne qualité, et c'est on vrai. A surtout des très bons techniciens qui la travaillent.
Bon, vous êtes à quelle altitude là exactement?
On est à la station de ski des Rousses, c'est à 1000 mètres d'altitude, et on est à 1600 mètres au plus haut.
Ouais. Mais c'est une bonne idée d'ouvrir un espace des mondes polaires, parce qu'on le disait d'ailleurs hier, il y a une publication qui vient de sortir et qui indique que la neige va disparaître, 70% de la neige va disparaître, et que dans les décennies à venir, il faudra aller skier à 2500 mètres d'altitude pour être sûr d'en trouver. Donc là, c'est une bonne idée d'offrir une alternative au public pour s'intéresser justement au monde du froid, mais alors, via un espace culturel.
Oui, une alternative, mais dans un premier temps, un complément aussi sur l'activité. On est en pleine saison d'hiver, donc en effet, lorsque les remontées ferment, idéalement, on peut continuer à découvrir ce milieu qu'est la neige, avec quelques ou à certains endroits, la neige est omniprésente sous forme de glace après. Mm-hmm. Donc on est en effet sur cette continuité de vouloir découvrir un milieu qui fait encore beaucoup rêver. Ouais. Où on fait encore beaucoup d'explorations et on envoie des robots également.
Ah ben, vous voyez.
Mais je ne suis pas un robot moi-même.
Non. Mais pour des choses scientifiques, évidemment.
Absolument. Hein. Absolument.
Alors, vous êtes géologue et géographe de formation, Stéphane Niveau. Vous êtes guide naturaliste, conférencier des régions polaires. Donc, vous partez sans arrêt entre l'Arctique et l'Antarctique ou...
Alors, sans arrêt, je vous arrête tout de suite. Hein. Sans arrêt, j'aimerais bien, mais non.
Enfin, vous avez fait beaucoup d'expéditions quand même.
Je pars encore. Donc là, l'expédition et l'exploration qui nous occupe tous en ce moment, c'est bien sûr l'ouverture de ce bâtiment. Donc, là, pour le moment, il est hors de question de partir, mais aussitôt que ce sera possible, évidemment.
Ouais, justement, l'engouement pour les pôles aujourd'hui est réel. Ce sont vraiment des zones du monde qui attirent de plus en plus de touristes.
Oui, alors l'engouement, il est multiple, il est varié. Alors en effet, on a beaucoup d'activités touristiques dans les zones polaires. Mais bon, je voudrais faire une nuance sur cette activité touristique parce qu'on parle d'un tourisme de masse en Antarctique, 40 000 visiteurs par an. Je rappelle juste que l'Antarctique, c'est 20 millions de kilomètres carrés. Que la zone, que le tourisme est bien limité dans une zone qui s'appelle la péninsule antarctique. Donc faisons attention sur cette notion. En revanche, c'est vrai que les régions polaires, on en parle beaucoup, elles attirent beaucoup. Peut-être parce que ça reste un des derniers sanctuaires, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a l'ours polaire, parce qu'il y a la banquise, les icebergs, et qu'on a des explorateurs. Ouais. Qui... Et puis aussi la recherche, hein, la recherche qui est extrêmement importante en zone polaire, et on en parle souvent. Donc c'est ça vrai. Peut en effet créer cet engouement.
Bijac.
Oui, je voulais simplement ajouter, quand on parle de région polaire, on pense tout de suite au continent. Faut pas oublier qu'il y a les océans et que l'océan Antarctique, notamment, joue un rôle clé dans tout ce qui est le changement climatique actuel et l'éventuelle évolution de ce climat. Donc, les pôles, d'ailleurs, dans l'ouvrage que je prépare, il y aura à la fois les continents et les pôles. Mais c'est vrai que les plus belles recherches, peut-être, sur le climat, elles viennent quand même des pôles.
Alors, cet espace, justement, des mondes polaires, Paul-Émile Victor. Et puis, quand même, dire un mot de son fils, Jean-Christophe. Qui nous a quitté le 28 décembre dernier, alors qu'il était là. Il a imaginé cet espace avec vous.
Oui, c'est exact. Donc, en fait, l'histoire est un peu liée. En effet, Paul-Émile Victor est originaire du Jura. Il est né à Genève, mais les parents habitaient Saint-Claude. Il a eu l'occasion de participer à un premier musée polaire de la fin des années 80, qui avait été animé par Pierre Marc. Mmh. Et puis ensuite, il y a eu donc un musée qui a continué, dont Jean-Christophe Victor, en effet, le fils aîné de Paul-Émile Victor, était devenu le directeur. le président pardon de l'association. Et rapidement, en fait, on a eu l'idée de faire un autre bâtiment qui correspondait plus à une scénographie actuelle, qui utilisait plus des médias. Mmh. Et donc, on a travaillé de nombreuses années avec Jean-Christophe, moi-même, et puis bien sûr les techniciens de la station des Rousses. On a œuvré pour ce nouveau bâtiment. Ça fait 14 ans qu'on est sur ce projet. Et Jean-Christophe a eu l'occasion de venir la dernière fois, donc début décembre, pour se rendre compte du bâtiment. Ouais. Il est en effet parti à la fin de l'année de 2016, mais il avait déjà vu et eu l'occasion de voir ce qu'on avait fait et qu'il était vraiment agréablement surpris et enthousiaste à l'idée de ce qu'on allait faire de ce bâtiment sur l'aspect pédagogique.
Ouais, donc évidemment, vous aurez une pensée toute particulière pour vous demain, hein, pour l'ouverture de cet espace.
Oui, donc demain, l'ouverture de la partie musée, ouais. Le musée polaire de l'espace des mondes polaires, qui regroupe d'autres structures comme
alors, une patinoire. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Alors voilà, il y a une patinoire, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut voir du point de vue muséographie? Alors exactement, qu'est-ce que vous avez réuni comme objet? Quelle est l'idée, le fil conducteur au fond de cet espace?
Alors c'est quoi? Avec Jean-Christophe, l'idée était qu'on ait à la fois un bâtiment qui soit ludique et qui soit pédagogique. On s'assoit bien sûr sur les travaux de son père, sur les travaux de Paul-Émile Victor, qui a été un très bon médiateur pour le monde polaire. Et à partir de là, en fait, on a essayé d'initier un parcours qui repose beaucoup sur le vécu. Donc imaginons une grande salle avec un énorme bloc de glace. On a éclaté ce bloc de glace et tous les morceaux, en fait, sont des prétextes à poser du texte, à poser des images, à poser des médias. Et puis de se promener à travers 24 thèmes différents pour découvrir les zones polaires arctique, antarctique. Déjà, à la sortie du bâtiment, savoir si l'Arctique est au nord ou au sud, c'est déjà un point important.
Mal, d'accord, oui.
Ensuite, en effet, on va parler de géographie, on va parler d'ethnologie, on va parler de recherche actuelle, comment vivaient les Inuits à l'époque de Paul-Émile Victor, et se rendre compte qu'aujourd'hui, ces Inuits vivent évidemment complètement différemment. Et tout le tour de l'Arctique également. On a des zones qui sont extrêmement sensibles de manière environnementale. Et évidemment, il y a des mutations à la fois paysagères mais aussi sociales. Donc, on traite de tous ces sujets.
Allez, on écoute la voix de Paul-Émile Victor. C'était en 1934. Enfin, il évoque sa première expédition en 1934.
J'ai écrit à Charcot pour lui demander s'il m'emmènerait au Groenland. Et j'ai, en l'espace de 48 heures, reçu une réponse me disant que Charcot envisagerait une participation éventuelle à sa campagne prochaine, que pour l'instant la campagne prochaine, c'était en 1934, n'était encore qu'ébauchée dans son esprit, mais que si l'occasion se présentait, Charcot me réécrirait. C'est à cause de ça que je me suis mis à étudier au Musée de l'Homme ce qui avait été fait sur les Esquimaux de la côte est du Groenland, et je me suis aperçu qu'il y avait encore beaucoup à faire, en particulier chez les Esquimaux d'Angmasalik sur la côte est du Groenland. Alors j'ai réécrit à Charcot en lui disant que je ne lui demandais plus de m'embarquer à bord de son navire pour une campagne d'été, mais de bien vouloir, s'il le jugeait possible, me déposer sur la côte est du Groenland chez ces Esquimaux-là pour étudier pendant un an ces Esquimaux. Finalement, j'ai exposé mon plan à Charcot. Il m'a répondu qu'il n'allait jamais à Angmasalik, que j'avais du culot de lui demander de faire un tel détour sur son programme habituel. Et puis il m'a regardé pendant un très long silence qui m'a paru éternel. Puis ensuite j'ai vu un sourire dans ses yeux, il m'a dit « Bon, ben c'est entendu, je vous emmène ». Ça a été aussi rapide que ça. Et c'est ça qui a déterminé finalement tout le reste. C'est-à-dire, depuis 1934 jusqu'à aujourd'hui, toutes les expéditions polaires que j'ai pu faire moi-même ou que j'ai pu organiser moi-même.
Voilà, c'était en 1956, la voix de Paul-Émile Victor, qu'on va donc retrouver évidemment abondamment à l'espace des mondes polaires qui va ouvrir demain, donc à Prémanon dans le Jura, avec un souci d'écologie aussi très fort dans la structure même du bâtiment, Stéphane Niveau.
Oui, les architectes ont conçu un bâtiment qui ressemble à une bouteille thermos, qui est complètement recouvert de terre, végétalisé. On récupère l'eau de pluie pour les toilettes, pour la patinoire, puisqu'on a une patinoire en glace également dans le bâtiment. Donc on essaye d'être le plus en proche de nos propos.
Voilà, pour sensibiliser évidemment tous ceux qui viendront vous voir à la question des pôles, de l'Arctique jusqu'à l'Antarctique, hein, puisqu'évidemment, ces lieux du monde font l'objet aussi de convoitises très fortes aujourd'hui, avec des pressions.
Très très fortes, il y a de la géopolitique aussi au cœur de la science dans les régions polaires.
Voilà, c'est donc à Prémanon, dans la station des Rousses, dans le Jura, et c'est demain l'espace des mondes polaires. Paul-Émile Victor, allez-y nombreux pour son ouverture. Et puis en attendant, on peut regarder Cyberlove sur le web d'Arte, ou lire encore la biographie de François Arago, L'Oublié, publiée aux éditions du Nouveau Monde. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup, Mathieu.
Passez un très bon week-end.